Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Dans moins de 8 mois auront lieu les élections américaines, peut-être l'une des plus importantes des dernières années. On s'oriente vers la revanche de 2020 entre Donald Trump et Joe Biden, deux hommes ayant déjà occupé la fonction, deux hommes de plus de 70 ans, dont l'un sera accompagné de sa vice-présidente, Kamala Harris. L'occasion de s'intéresser à la place des femmes aux États-Unis. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible sur Apple Podcasts, Castbox, Podcast Addict, Deezer ou encore Spotify et Amazon Music. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
Thelma.
Je le prends !
Thelma, je t'ai déjà dit que j'ai horreur de t'entendre gueuler dès le matin.
Pardon, chaton. C'était juste pour que tu sois pas en retard.
Salut. Alors, ça va la femme au foyer ?
Louise.
J'ai pas demandé à Darry si je peux partir.
Tu lui as pas encore demandé ? Thelma, est-ce que c'est ton mari ou ton père ?
Thelma et Louise vont à la pêche. Mais au bout du voyage, il n'y aura pas de poisson, mais un immense vent de liberté et une faim qui aura marqué des générations de cinéphiles. Le film de Ridley Scott avec Gina Davis et Suzanne Sarandon, écrit par Kali Khoury, est sorti en salle en 1991. Presque un miracle, tant les manias d'Hollywood rechignaient à s'engager sur ce terrain. Deux jeunes femmes en quête de liberté dans un monde machiste et violent. C'était 15 ans avant que n'émerge le mouvement MeToo. Dans ce film, on y croise aussi Harvey Keitel et le jeune Brad Pitt.
Ladies, gentlemen, let's see who wins the prize for keeping their cool. Simon says, everybody down on the floor.
33 ans après la sortie du film, en cette année électorale aux États-Unis, deux femmes ont décidé de rouler sur les traces de Thelma et Louise. Elles s'appellent Catherine et Marine et elles le racontent dans un livre « À la vie, à la mort » publié aux éditions Paulsen. Je les ai invitées pour en parler dans la story des Échos. Bonjour Catherine Fay.
Bonjour Pierrick.
Et bonjour Marine Sanclémente.
Bonjour Pierrick.
Alors d'abord, pourquoi ce livre, cette aventure de 10 000 km entre Little Rock en Arkansas et le Mexique en passant par le Grand Canyon ?
On a l'habitude avec Marine de voyager ensemble et c'était pour nous l'occasion de partir sur les traces de Thelma et Louise, un film qui nous a marqué toutes les deux et lequel a soulevé nombre de questions entre nous deux qui avons 30 ans de différence d'âge et donc avec des regards différents sur les problématiques soulevées par ce film.
Et qu'est-ce que ce film évoque justement pour vous, Marine, vous qui étiez à peine née, j'imagine, ou peut-être même pas née au moment où le film est sorti.
Même pas née. En effet, pour moi, ce qu'il évoque, ce film, c'est vraiment la quête d'une certaine forme de liberté. C'est vraiment le fantasme du périple américain. On traverse les États-Unis avec ses horizons infinis dans une voiture qui plus est, qui est quand même un emblème de la liberté américaine et de l'American way of life. Donc voilà, ce film englobe beaucoup de thématiques qui ont fait fantasmer quand même beaucoup de spectateurs.
Et Catherine, vous qui êtes franco-américaine aussi, j'imagine qu'il y a une résonance particulière.
Bien sûr, j'ai passé les 8 premières années de ma vie aux États-Unis, je suis née là-bas. Probablement que ce film a réveillé et réveille en moi des souvenirs dans mon imaginaire, dans ma construction même.
Vous avez fait le choix d'ailleurs, alors ça m'a surpris, de vous passer de GPS. Pourquoi ?
Pour voyager comme Thelma et Louise, c'est-à-dire de partir comme ça avec toutes les possibilités de chemin de traverse, de se perdre, de faire des rencontres inopinées, de vraiment vivre l'aventure telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire au sens étymologique du terme, le hasard, l'inattendu, et c'était un petit peu notre objectif.
Oui, c'est un choix qu'on a regretté quand même sur les échangeurs autoroutiers dès les premiers jours à Little Rock. Lire les échangeurs autoroutiers sur une carte, c'est vraiment une épreuve du combattant.
C'est un film qui est aussi le reflet peut-être d'une époque, la fin des années 80 aux États-Unis et sur la place des femmes dans la société.
Écoutez, l'impression qu'on a, le sentiment que nous avons toutes les deux, c'est que les choses n'ont pas vraiment changé. C'est plutôt un regard sur les femmes, sur différents types de femmes et sur le désir de se libérer, de devenir indépendante, et c'est sur la soumission en fait. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que c'est la fin des années 80? Peut-être qu'à l'issue de notre voyage, on s'est rendu compte que certaines choses ont évolué. Bien évidemment, aussi bien du côté des femmes que du côté des hommes, mais beaucoup de choses sont restées telles qu'elles étaient il y a 30 ans.
Marine, vous diriez que c'est un film féministe ?
Alors, je dirais que c'est un film féministe en demi-teinte, parce que ça l'est dans une idée d'émancipation des femmes. En effet, elles quittent deux mecs qui n'ont peu d'intérêt pour elles pour vivre leur aventure ensemble, mais en même temps, s'opposer au patriarcat dans le sens de Thelma et Louise, c'est finir dans le ravin. Donc, en tant que film féministe, il échoue. Alors, Catherine a une autre version et pense plutôt à un envol qu'à une chute. Mais de mon côté, je suis un peu pessimiste.
Et pour la dernière scène de Thelma et Louise, que beaucoup de personnes ont gardé en mémoire, c'est-à-dire cette Thunderbird, cette voiture décapotable qui s'envole avec Thelma et Louise, parce qu'elles sont dans une sorte d'impasse en face du Colorado, dans le Grand Canyon. Elles ont la police derrière avec des armes braquées sur elles, et elles décident d'appuyer sur le champignon. Pour moi, dans mon souvenir, elles s'envolaient. Et toujours aujourd'hui, elles s'envolent. Et Kali Khoury, la scénariste, l'a écrit dans cet esprit, en disant que ce mouvement, puisque c'est un film du mouvement, pas un instant on s'arrête, on avance, elles sont obligées de fuir, il y a de l'action sans arrêt, un peu comme dans un western. Et cette dernière scène est le prolongement de cette fuite, de cette envie de liberté et d'affranchissement. Et Kali Khoury le dit dans une interview, cet envol nous emmène jusqu'à 2024.
Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de cow-boy, de film un peu de western. Pour un des interlocuteurs que vous avez rencontré, pour lui, c'est presque un film justement de cow-boy ou plutôt de cow-girl.
Oui, alors quel personnage, Marine, tu te souviens ?
C'est Charles.
Charles. Oui, bah, oui, et c'est vrai. Parce que Thelma et Louise sont deux femmes qui sont hors la loi, mais qui sont forcées d'être hors la loi. En réalité, c'est pour se défendre d'une situation qui leur tombe dessus. Dans les westerns, il y a des situations analogues, des situations d'attaque, de défense. On ne sait pas très bien, on décide qu'un tel est gentil et l'autre mauvais, mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont justement toutes les contradictions que l'on retrouve aux États-Unis.
En privé, Donald Trump le dit à ses alliés et conseillers, s'il est élu président des États-Unis en novembre, il voudra instaurer une interdiction fédérale d'avorter après 16 semaines, avec toutefois des exceptions en cas de viol, d'inceste ou de danger pour la vie de la mère. L'IVG est redevenu un thème central de la vie politique américaine après cette décision controversée de la Cour suprême. À peine arrivé aux États-Unis pour votre grande traversée, vous avez d'ailleurs été confronté à cette question dans une église.
Tout à fait, ça a été un sujet qui a été au cœur de cette aventure, alors qu'on ne l'avait vraiment pas anticipé, puisque l'annonce de la fuite de l'amendement de cet arrêt Roe versus Wade a été annoncée le jour où nous sommes arrivés. On était dans une église d'une communauté baptiste, et là vraiment on s'est confronté à une liberté dans la manière de dire les choses qui nous a frappés tout de suite. Parce que quand une femme en face de vous vous dit que si une enfant est enceinte, même s'il s'agit d'un viol, il faut voir ça comme une opportunité parce que Dieu l'a voulu, c'est très dur de se positionner par rapport à ça. Et partout, on a rencontré ces femmes, on les a écoutées, on a essayé de ne pas les juger. Ces femmes qui sont vraiment puissamment contre l'avortement. Parce qu'il y a aussi des femmes qui le sont.
Autre thème de campagne auquel vous avez été très vite confronté, c'est celui de l'immigration et qui rappelait aussi toute la lutte aux États-Unis pour les droits civiques.
Bien sûr, mais il ne faut pas oublier, nous avons traversé une petite partie des États-Unis. Nous sommes partis de l'Arkansas, de Little Rock, avant de traverser l'Oklahoma, le Nouveau-Mexique, l'Utah et l'Arizona. Nous sommes donc dans l'Amérique du Sud-Ouest. Et c'est important parce que nous sommes dans ce qu'on appelle la Bible Belt, donc le sud des États-Unis.
La ceinture de la Bible, en français.
Et qui est encore empreinte de poussière, de guerre de sécession, de tout cela et d'esclavage. Donc oui, nous avons rencontré toutes ces problématiques. politique de rejet de l'autre, mais nous sommes dans un pays de migrants en réalité. Les Américains, ce sont des Européens majoritairement, et donc c'est assez compliqué de comprendre ce qui se passe et dans leur inconscient, et dans leur peur, et dans leur positionnement, et dans leur arrivée finalement assez récente. La grande vague de migrants, c'était au 19e siècle, c'est-à-dire, on peut dire que c'est il y a longtemps, non, c'est hier. Donc c'est très compliqué de se positionner, de poser une pensée. Juste, ça a été notre objectif, d'être comme des passeuses, d'écouter et de transmettre.
Sans juger, ça vous le
voilà,
disiez, c'est
très
important.
Oui, et puis aussi ces gens qui sont très racistes aujourd'hui ont quand même la mémoire courte. Eux-mêmes sont arrivés sur un territoire où il y avait déjà des natifs qui étaient là et qui n'ont pas toujours eu les droits qu'ils auraient dû avoir.
Vous êtes passé alors par Zinc dans l'Arkansas. Il faut imaginer, 92 habitants, on essaye de vous suivre, on dit mais où est-ce qu'elles vont ? Et Zinc qui est considéré comme l'une des villes les plus racistes du pays, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que notamment, c'est là que siège le siège mondial du Ku Klux Klan. C'est une découverte qu'on a faite faute de GPS au début. On a un peu erré, on s'est un peu égaré. Et en rencontrant quelques personnes de cette ville fantôme, ces personnes nous ont conduites vers cet endroit qui, pour nous, évidemment, n'existait plus. Bah, évidemment, on connaissait la présence du Ku Klux Klan aux États-Unis, mais c'était l'histoire ancienne. En fait, non, c'est très contemporain et beaucoup en sont encore membres, sont membres de cette organisation. C'est une organisation qui fait encore des actions. Donc oui, le racisme est un sujet malheureusement très, très vif pour les États-Unis aujourd'hui.
Mais spécifions que donc Zinc se trouve en Arkansas. Donc on est vraiment... Chaque État est comme un pays, en quelque sorte, aux États-Unis. Donc on ne peut pas appliquer ce qu'on est en train de dire là à tous les États-Unis. Selon nous, il est important de toujours spécifier où on se trouve. Et donc là, Zinc, oui, Arkansas, est un des États les plus pauvres des États-Unis, un des États les plus racistes des États-Unis. Et oui, pour nous, ça a été véritablement un des moments extrêmement angoissants de notre périple, puisqu'on ne s'y attendait pas, et que ça a soulevé des questionnements très profonds, très complexes, sur cette frontière ténue qu'il peut y avoir entre le bien et le mal, et de se dire comment peuvent encore perdurer de telles structures contre et les Noirs, mais et les homosexuels et toutes sortes de personnes, puisque nous avons rencontré très peu le lendemain différentes personnes qui nous ont dit qu'ils s'attaquaient notamment aux personnes homosexuelles, les poursuivant dans la forêt, voire jusqu'au meurtre. Et ce qui était d'autant plus choquant, c'est que visuellement, il y avait toutes sortes d'éléments qui nous ont rappelé les films qu'on a pu voir, des croix au bord d'une route avec, on ne savait pas trop ce que c'était autour, mais probablement des croix qu'ils enflamment lors de cérémonies, où ils portent encore ces vêtements que l'on porte, des capuches,
cônes, ouais.
De cônes. Et oui, on ne peut pas dire qu'on n'a pas vu ça.
263 ans de prison, c'est ce dont a écopé cet ancien policier d'Oklahoma City. Daniel Holtzclaw a été condamné pour viol et abus sexuels dans l'exercice de ses fonctions. Il a été reconnu coupable de 18 des 36 chefs d'accusation retenus contre lui.
Après l'Arkansas, vous rentrez dans l'Oklahoma, un État réputé pour sa violence policière et pour les abus sexuels, illustré ici sur Euronews par cette condamnation d'un ancien policier il y a 8 ans. C'est le pire État pour les femmes, vous a dit Sheida, dont les parents sont originaires d'Iran. Dans l'Oklahoma, vous abordez un autre thème qui n'est pas encore dans la campagne présidentielle, c'est celui de la peine de mort. Et pour certains habitants que vous avez croisés, la question est vite tranchée, si j'ose dire.
Oui, la question est vite tranchée. C'est encore une thématique qui n'a pas été réglée dans l'opinion publique, en tout cas. Alors, la peine de mort est beaucoup moins appliquée qu'avant, mais toujours dans certains États. Et l'Oklahoma est l'un de ceux où elle est encore la plus appliquée. Et on sent que c'est vraiment... c'est acquis. Ce n'est pas encore un sujet chez les personnes qu'on a rencontrées. Ça ne pose pas de problème, puisque c'est comme ces gens qui détiennent des armes. On nous dit, faire du mal à une personne mauvaise fait de nous des gens bien. Donc c'est quand même une mentalité qui va mettre quelques années, je pense, à être renversée.
D'où l'importance de toujours spécifier d'où on parle, c'est-à-dire d'États qui sont oubliés des radars, et que c'est cette Amérique-là qu'il est important de mettre en lumière en cette année d'élection présidentielle aux États-Unis.
Alors la route se poursuit par Boise City, seule ville des États-Unis à avoir été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. la vie, à la mort, sur les traces de Thelma et Louise. C'est un hymne à la vie et à l'amitié, la vôtre, malgré la différence d'âge. Mais ne dit-on pas que l'âge ne fait rien à l'affaire. Et puis, celle de ces deux personnages incarnés par Gina Davis et Suzanne Sarandon, ça a été aussi pour vous l'occasion de faire des rencontres étonnantes avec un chasseur de tornades, avec des représentants des peuples indiens comme les Osage, surnommés un temps les millionnaires rouges, ou les Navajos dans l'Utah. Et il y a eu aussi, je crois, des moments difficiles. Ça a quel goût, les testicules de veau ?
Les testicules de veau, c'était... Écoutez, pour moi, c'était une très bonne expérience, peut-être complémentée par tout ce qu'on venait de vivre avant, ce jour de branding chez les cow-boys de l'Oklahoma. Donc, il y avait tout le folklore, disons, qui n'en est pas, hein, bien sûr, là-bas, mais qui, pour nous, était assez savoureux. Pour Catherine, c'était moins le festin.
Oui, c'était moins le festin, mais ça avait quand même goût de l'amitié, de l'accueil. On a passé plusieurs jours dans cette famille de cow-boys et avons assisté à des moments très importants de, justement, pourquoi a-t-on mangé des testicules de veau ? Parce que nous avons assisté au branding, qui n'arrive qu'une fois par an, où ils coupent les testicules des veaux pour justement avoir une viande bien meilleure. Et c'était un cadeau qu'ils nous ont fait. Donc... c'était bien.
Oui, des moments de partage et d'amitié qui donnaient aussi une autre visage à l'Amérique, peut-être plus sympathique et en tout cas plus accessible et plus ouverte. Il y a aussi beaucoup de rencontres avec des femmes comme Tanisha, rencontrée dans un Waffle House sur le bord d'une grande route à Little Rock. Elle a deux boulots et elle vous a dit « En venant d'un des quartiers les plus pauvres, j'ai déjà de la chance d'avoir un job. Et puis, comme Thelma et Louise, j'avance en pilote automatique. » C'était aussi un choix de traverser l'Amérique rurale, celle qui se sent délaissée plutôt que d'aller dans les grandes villes ?
En réalité, vraiment, notre idée, c'était de s'appuyer sur le film Thelma et Louise et de suivre leur route fictionnelle. Donc, Thelma et Louise vivent à Little Rock, en Arkansas. Et ensuite, il y a une route plus ou moins imaginaire qui traverse donc l'Arkansas, l'Oklahoma, qui ensuite évite de traverser le Texas alors qu'elles veulent fuir au Mexique. Mais on comprend assez rapidement que, donc, pour rappeler le début du film, ce sont deux amies qui veulent partir en week-end toutes les deux tranquillement. Dès le premier soir, elles sont dans un bar, elles picolent. L'une d'entre elles se fait draguer par un type qui essaie de la violer. Louise arrive sur le parking et, sur un coup de sang, elle tire sur le type. Elles sont donc en cavale. Et elle ne passe pas par le Texas parce qu'on comprend à un moment donné que Louise, plus jeune, s'est faite également, elle, violée dans son enfance ou sa jeunesse. Et donc, non, c'est le choix de traverser ces états-là est complètement dicté par le film. Et c'est ce qui a fait justement la surprise, parce que l'Arkansas n'a rien à voir avec le Nouveau-Mexique, qui n'a rien à voir avec l'Utah.
Vous avez justement cette réflexion, nous ne nous attendions pas à autant d'extrémisme, de résistance et d'espoir déçu. C'est une Amérique divisée qui s'apprête à voter ?
C'est une Amérique divisée et finalement tellement déjà divisée par sa géographie et par sa typologie. Chaque État est un pays à part entière. Ce que disait Catherine, alors évidemment, l'Arkansas et l'Oklahoma sont les héritiers des États sécessionnistes et de cette Bible Belt, mais au Nouveau-Mexique, il y a une ambiance très artistique, très bohème, avec l'influence de nombreux artistes, de nombreux auteurs qui y sont allés. Je pense notamment à Georgia O'Keeffe ou D.H. Lawrence, qu'on cite dans le livre. L'Utah et l'Arizona, eux, ont quand même un afflux touristique tel qu'il y a un mélange des genres et des populations un peu plus important. Donc, c'est vrai que, bien sûr, l'Amérique est divisée parce que, par essence, elle l'est aussi.
Limitation de l'avortement, culture du viol, sexisme ordinaire, la femme au foyer, vous portez un regard désolant sur une partie de l'Amérique. En vous lisant, je me suis posé une question. Comment peut-on être femme et voter pour Donald Trump, dont le rapport aux femmes est pour le moins cavalier ?
Alors, nous n'avons pas forcément l'impression, je pense, Marine et moi, que nous dressons un portrait désolant des femmes et des hommes que nous avons rencontrés. Des vies difficiles, certes, des extrêmes dans leur pensée, leur jugement, leur point de vue, soit qu'elles sont adeptes d'une religion. On dit adeptes parce que vraiment, c'est vrai que la religion a un poids considérable aux États-Unis. Soit qu'elles ont eu une vie difficile et qu'elles se sont retrouvées seules à élever leurs enfants, etc. Enfin bref, nous avons rencontré toutes sortes de femmes et toutes sortes d'hommes. Désolants, non, courageux, plein d'espoir, Mais pourquoi est-ce que, oui, une femme voterait pour Trump? Moi, je ne peux pas vous donner la réponse. Parce que c'est justement ce mystère, ces fractures, c'est, je dirais, l'inconscient et, qui entre en ligne de compte, selon moi. Et à l'image un peu d'ailleurs de ce film, Thelma et Louise, qui, je pense, nous a intéressés parce que c'est un peu un film à tiroir et que notre périple est devenu un périple à tiroir. Donc, vous ouvrez un petit tiroir, mais il y en a un autre qui est caché derrière. Donc, j'aurais du mal à vous donner une réponse. Peut-être que Marine...
C'est une question très complexe. Je veux dire pourquoi ces femmes votent Trump, c'est difficile pour nous. Toutefois, certaines nous ont dit quand même que, économiquement, elles étaient très contentes de ce qu'avait fait Trump pour le pays. Beaucoup aussi, nous, on tire un peu le portrait tout blanc ou tout noir avec soit des aficionados de Trump, soit des gens fervemment contre. Finalement, il y a beaucoup de femmes aussi qui nous ont dit qu'évidemment, elles regrettaient ces propos qu'il avait et on se souvient de certaines phrases en particulier. Mais qu'elle ne se reconnaissait tellement pas dans les sujets mis sur la table par les démocrates que c'était finalement un non-choix. Donc, il n'y a pas toujours une grande adhésion, mais beaucoup de femmes votent aussi, et par tradition d'une part, et parce qu'elles n'ont pas vraiment en face d'autres choses qui les conviennent.
I'm Jan Morgan. I am not a career politician, but for almost three decades, I was an award-winning television investigative journalist exposing waste, fraud, and abuse in government. Elect me governor May 22nd, and I promise you, this time, it will be different.
Vous avez parlé d'aficionados de Trump. Vous avez rencontré une femme, Jan Morgan, candidate au poste de gouverneur, d'ailleurs, de l'Arkansas. Elle se présente comme une tigresse, une Trump en robe léopard, fan du film Thelma et Louise, d'ailleurs.
Oui, alors c'est vrai que c'est un personnage extrême que nous avons rencontré là. Mais encore une fois, on l'a laissé parler, nous expliquer un petit peu qui elle était. Ce qu'on a réussi à comprendre à travers ce personnage assez terrifiant en réalité, parce que c'est vraiment une bimbo qui porte son gun sur la cuisse dans une sorte de gaine, qui a voulu nous armer en nous disant que nous étions en danger, qui nous a fait peur. C'est justement cette question de la peur. C'est à quel moment et qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes, femmes et hommes, pour qu'ils aient aussi peur de l'autre? Et je pense que ça a donné un petit peu une direction à notre périple et à nos questionnements et aux questions qu'on a posées aux différentes personnes qu'on a rencontrées. Cette question du territoire, de ce qu'on a acquis et qu'on ne veut pas perdre, d'un imaginaire aussi assez terrifiant que l'on met dans la tête des gens. Et puis aussi, encore une fois, comme on le dit, on le répète, l'Amérique est gigantesque, les gens sont loin, peuvent vivre au milieu d'un désert ou d'une campagne sans voir une maison pendant 40 kilomètres. Alors, je pense que, notamment pour des migrants qui se sont battus pour déjà traverser l'Atlantique, ensuite traverser les États-Unis, la conquête de l'Ouest, avoir un territoire, créer quelque chose de leurs mains, se battre pour essayer de garder cette chose-là, ils ont peur. Ils ont peur qu'on leur prenne ça, ils ont peur et à ce moment-là, ben, c'est la porte ouverte à la violence.
À l'opposé, il y a un personnage étonnant que vous rencontrez vers la fin du voyage au sud de l'Arizona. Elle s'appelle Sunny.
Oui, Sunny, c'est une femme qui nous a beaucoup touchés. Elle a été de sa tendre enfance jusqu'à ses 18 ans dans une secte, la secte du Yogi Bhajan, qui est notamment le fondateur du yoga Kundalini et encore...
Le Harvey Weinstein du yoga, c'est comme
exactement,
ça que vous l'appelez.
Exactement, c'est un peu comme ça, alors qu'elle l'appelle en tout cas. C'est une femme qui a été abusée dans cette secte de ses 8 à 18 ans, qui s'est échappée, ensuite qui a fui à New York, qui a eu une carrière de mannequin, qui a eu une vie un peu de glamour et de paillettes, et qui est retournée finalement au Nouveau-Mexique, près de la secte dans laquelle elle a grandi, et qui fait de la prévention avec les chevaux. En fait, elle utilise l'équithérapie comme moyen de protéger les femmes et en tout cas de les prévenir aux risques auxquels elles pourraient être sujettes.
Voilà, toute une galerie de personnages hein, qu'on va découvrir, qu'on va rencontrer et qu'on va suivre avec vous dans À la vie, à la mort. J'ai un dernier petit mot. Vous avez fait cette traversée à bord d'une voiture moderne, une Nissan, je crois, qui a pas mal souffert d'ailleurs sur certaines routes. Hein, c'était pas toujours goudronné. Pourquoi pas en Thunderbird hein?
On aurait voulu. On a cherché pendant des mois comment obtenir une réplique de cette voiture. On s'est rendu à l'évidence, ça aurait été un peu compliqué. Et heureusement, en effet, sur certaines routes que nous n'avions pas à la Thunderbird, parce qu'on aurait été bien en peine.
Mais il est important que j'ajoute que non seulement on aurait aimé au départ voyager avec cette voiture, mais la symbolique de ce nom, Thunderbird, est extrêmement important et va rejoindre la dernière scène du film, puisque Thunderbird, c'est vraiment l'oiseau tonnerre qui est dans la mythologie des peuples navajos et qui est cet oiseau qui relie le ciel à la terre et donc qui nous amène vers l'infini et vers l'immortalité, comme Thelma et Louise qui continuent à porter le message de cette insoumission et de l'affranchissement.
Le réalisateur ne voulait pas d'autre voiture que celle-là, d'ailleurs. Hein.
Absolument pas.
Et, allez, est-ce que je le dis ? Vous l'avez retrouvée, la voiture, en fait, pour de vrai ?
On l'a retrouvée, la voiture.
Allez, on laissera les lecteurs et les auditeurs découvrir ça.
Merci Catherine Fay et Marine Sanclémente, auteurs de « À la vie, à la mort », « Sur la route avec Thelma et Louise » aux éditions Paulsen. Et pour suivre le duel Donald Trump-Joe Biden pour la présidentielle américaine, rendez-vous tous les jours sur leséchos.fr. Abonnez-vous pour rester au plus près de l'actualité. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.